Septembre 1953, frontière du Laos et de la Birmanie. Robert Kovacs avançait avec difficulté sur la piste des trempées. À chaque pas, ses brodequins s'enfonçaient dans la fange, puis faisaient un bruit humide de succion lorsqu'il les en dégageait. Des rebords de son chapeau de brousse coulaient des filets d'eau comme des gouttières. La pluie tombait en abondance depuis 3 jours sur la colonne de parachutistes coloniaux français qui progressaient dans ce foutu marécage couvert de lalis, la fameuse herbe à éléphant, haute de plusieurs mètres. La plupart des soldats étaient des jaunes. Seuls les cadres étaient blancs. Des Français qui dépassaient d'une tête le reste de leurs hommes. Ils étaient 4. Leur chef, le légendaire capitaine Brémond, marchait en tête. 2 éclaireurs méos, terme péjoratif pour désigner les peuples plus connus sous celui des Hmong, progressaient à une bonne centaine de mètres devant la colonne pour éviter de tomber dans un guet-apens. « On devrait déjà y être », se dit Kovacs en jetant un œil à son bracelet-montre Bulova. Le photographe pesta quand il constata que le verre était plein de buée. Foutue humidité. Il put tout de même lire 14 heures passées, pour autant que la montre fonctionnât encore. Le rencard était prévu pour le début d'après-midi.
« Fucking shithole country »,
maugréa-t-il. Et pourtant, c'était la fin de la mousson. Les pluies auraient dû se faire plus éparses.
« Le temps est décidément contre nous »,
songea le photographe, en jetant un œil pessimiste au ciel chargé de nuages pensus, charriés par le vent. Il s'arrêta pour vérifier que ses 2 appareils photo étaient bien restés au sec dans leurs étuis en cuir, qu'ils graissaient régulièrement pour éviter toute infiltration. Il soupira. Son Zeiss Icon Contax et son Leica Type 3 étaient pour l'instant préservés. Des soldats le dépassèrent, le bousculant presque. C'étaient des supplétifs déguenillés, maigres et mauvais comme des chats sauvages. Des indigènes pourtant armés de fusils garants américains dernier cri. Des méos. Kovacs ne les aimait pas, sans pour autant les sous-estimer. Il savait que ces montagnards frustres, tout en muscles et en air, étaient de redoutables combattants. C'était d'ailleurs pour cela que les Français les utilisaient dans ce conflit. Ça et leur haine viscérale des Viet Minh. Les ennemis de mes ennemis. Pendant qu'il rajustait les bretelles de son sac à dos qui lui sciait les épaules, ce furent les 5 mules qui le dépassèrent, chargées de lourdes caisses en bois vert olive, en partie poncées pour, sans doute, effacer des sigles militaires. L'un des muletiers, un thaï ou un amanite tout juste sorti de l'adolescence, lui jeta un regard lumineux et leva un pouce au-dessus de la tête. Kovacs lui répondit avec un sourire forcé. Il fourgua régulièrement des chewing-gums aux gamins dans l'espoir d'approcher la mystérieuse cargaison.
Comment qu'il s'appelait déjà ?
Bamat, c'est ça.
Bamat. Drôle de nom.
Il portait toujours un bandeau noir sur le front. Kovacs envisageait d'enchérir dans ses tentatives de s'attirer l'amitié du gamin pour avoir enfin une chance de faire un cliché de la cargaison brinque-ballée sur les mules. Sa montre, peut-être. Le môme la regardait de temps à autre. De toute façon, elle avait pris l'eau. Mais même avec l'aide d'un muletier, ce n'était pas gagné. Les Français le tenaient à l'œil et l'engueulaient dès qu'il lorgnait d'un peu trop près la cargaison. Il n'avait pas demandé à se trimballer un correspondant de guerre américain, mais l'ordre venait de l'état-major français de Saïgon, et il n'avait pu qu'obtempérer. Soudain, la pluie cessa, comme par enchantement, libérant une vapeur bleutée de la végétation. Un des Français qui assurait la mission de Serfil s'avança vers lui. Lucien, un géant alsacien, sergent-chef dont le regard bleu intense passait les fentes de lourdes paupières sans cils. Sa mâchoire carrée et prognate décapsulait sans difficulté des bouteilles de Coca-Cola.
Alors Bob, un coup de mou ?
Kovacs sourit. Ces foutus Français l'affublaient de ce sobriquet ridicule de Bob, contraction de Robert, comme s'il était américain. Il n'était pas américain. Il était hongrois, mais comme il vivait à New York, pour ses bouseux, il était forcément un ricain.
Ça va, Lucien, répondit-il. On ne devrait pas être arrivé ?
Il s'exprimait dans un français parfait, presque sans accent, fruit d'un séjour de plusieurs années à Paris, au cours duquel il avait écumé le quartier latin et Montparnasse, fréquentant les plus grands photographes, comme Cartier-Bresson, Seymour, Gassman, et séduisant les plus jolies femmes. C'était d'ailleurs l'une d'entre elles qui lui avait conseillé d'occidentaliser son prénom hongrois, István, en Robert, qui passait aussi bien en français qu'en anglais. Une sacrée bonne idée, lorsqu'il y repensait.
« Le fleuve est juste derrière la colline, » dit Lucien. On y sera dans 1 heure tout au plus.
Kovacs soupira et emboîta le pas au géant.
Il leur fallut donc gravir la colline, puis descendre son flanc nord pour arriver enfin sur la berge sud du fleuve Mékong, dont les eaux boueuses avaient presque noyé les îlots, entremêlant flots gras et lambeaux de terre. Là, près d'un amas de cahutes ouvertes à tous les vents, une grande barge de bambou nouée entre eux par de simples lianes les attendait.
« Le yacht de monsieur est avancé !»
dit Lucien, en assenant une grande claque sonore sur l'épaule de Kovacs, manquant de le faire chuter. Manifestement, le yacht était tracté à la force des bras, le long d'une corde épaisse tendue d'une rive à l'autre. Quelques rayons lumineux perçaient le molleton grisâtre du ciel. Des paysans vaquaient mollement à leurs affaires, des outils à l'épaule. Près de l'embarcadère, un camelot débitait son boniment à une demi-douzaine de femmes qui se passaient des casseroles et des gobelets entre les mains pour les examiner. Si le temps s'était calmé, Kovacs ne parvenait pas à se réjouir. Il regardait avec inquiétude le courant impétueux, charriant de temps à autre des troncs déracinés. Les muletiers embarquèrent leurs animaux, sous le regard curieux d'enfants nus au ventre rebondi et d'un vieillard osseux à peine plus habillé. Les bateliers nonchalants patientaient sur la barge en chiquant du bétel. Kovacs, pas très rassuré, allait monter sur le radeau quand l'adjudant Bonardi, un niçois dans la trentaine, visage hâlé et œil noir, s'interposa.
Hola! Où crois-tu aller comme ça, la Merloc?
L'antipathie entre le Méditerranéen et les Hongrois avait été immédiate lors de leur rencontre 3 jours auparavant. Ça ne s'était pas amélioré pendant le voyage. Il suffisait de voir Bonardi jouer avec sa dague commando faire Bernd Sykes tout en toisant Kovacs. Ce dernier se contentait de lui répondre par des regards ironiques, moqueurs, qu'il aurait voulu plus blessants. Seulement voilà, des bruits couraient sur le petit homme musculeux. Des bruits pas vraiment rassurants. Bonardi aurait fait la Seconde Guerre mondiale dans les rangs de la France libre au BCRA, section AM, action militaire. D'après ses on-dit, il aurait été parachuté de nombreuses fois en France occupée pour accomplir des sabotages, des assassinats. C'était un spécialiste du corps à corps et un tireur d'élite. Des rumeurs d'exécution de traîtres à la dague, d'éventrations, de décapitations de miliciens et de gestapistes contribuaient à la légende noire du personnage. Kovacs voyait bien que Bonardi représentait un danger. Même ses camarades s'en méfiaient. Le photographe déglutit et tenta d'afficher un sourire confiant.
« Eh bien, je vais de l'autre côté du fleuve ? Ça m'étonnerait. »
Kovacs était dans une impasse. Hors de question de tenter de forcer le passage. Le niçois le dévisageait d'un air gourmand, la main sur la garde de sa dague commando. Hors de question non plus de louper le rendez-vous. Il ne s'était pas fadé 8 jours de cette jungle puante, farcie de moustiques et de sangsues, pour échouer à 300 mètres du poteau d'arrivée. Il ne restait qu'une issue. Brémond. Justement, celui-ci approchait, de sa démarche puissante, comme s'il montait en permanence à l'assaut.
Qu'est-ce qui se passe, Joseph ?
La main de Bonardi lâcha la poignée de l'affaire Bernd Sykes.
Il se passe, mon capitaine, que l'autre Yankee, là, il veut venir avec nous au point de rendez-vous. Je lui explique poliment que c'est pas possible.
Brémond ôta son béret rouge et gratta son cuir chevelu. C'était un grand gaillard, dont le visage énergique, empreint d'un romantisme viril, aurait pu servir de modèle à une affiche de propagande de la Wehrmacht. Il passait pour terriblement séduisant auprès de la gente féminine à Saïgon et à Hanoï, plus particulièrement en raison de son regard perpétuellement sombre, comme si un poids accablant affligeait son âme. Brémond se tourna vers le journaliste, le jaugea et secoua la tête.
Robert, ce serait mieux que vous restiez avec Évrard de ce côté du fleuve. C'est vrai que c'est dangereux là-bas.
Il avait désigné la berge opposée d'un coup de menton.
Mais, mon capitaine, c'est dangereux partout. Là-bas, ici, partout.
Comme Brémond hésitait toujours, Kovacs tenta le tout pour le tout. Si l'argument qu'il s'apprêtait à défendre ne faisait pas mouche, il était bon pour rentrer à Saïgon bredouille, avec certes de belles photos, mais rien que ses concurrents reporters de guerre n'aient déjà publié maintes et maintes fois.
Écoutez, Brémond, vous avez lu comme moi l'ordre de mission. Il est stipulé que je dois vous accompagner dans toutes vos missions et sur tous les terrains d'opération, quels qu'ils soient. Et c'est signé du...
Kovacs hésita à poursuivre. Il n'aimait pas l'idée de tordre le bras de Brémond.
Du général Navarre. Oui, je sais, dit ce dernier d'un ton glacial. Mais moi, je suis responsable personnellement de votre sécurité. Et moi, je suis un grand garçon, capitaine. Je sais prendre mes patins, comme vous dites.
Kovacs attendit, suspendu aux lèvres de l'officier. Brémond fit quelques pas, regarda longuement la rivière et revint vers eux, plein de détermination.
« C'est bon, vous pouvez embarquer, Robert.
Bonardi voulut protester.
Mais capitaine... Ta gueule, Joseph. J'ai pris ma décision.